VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est 11h en temps universel. Jean-Roger Billon à ce micro. Bonjour à tous. Décès de la légende sud-africaine du jazz, Hugues Masekela, que vous écoutez maintenant. La légende sud-africaine du jazz, le trompettiste Hugues Masekela est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Des suites d'un cancer, c'est ce qu'a annoncé sa famille, suscitant une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid. Un baobab est tombé, a réagi le ministre sud-africain de la culture, Nathi Mtetwa. La nation a perdu un musicien d'exception. On peut sans hésitation dire que Frère Hugues était un des grands architectes de l'afro-jazz et qu'il a élevé l'âme de l'Afrique du Sud grâce à sa musique intemporelle. Hugues Masekela avait fui le régime de l'apartheid dans les années 1960 et n'était rentré dans son pays qu'après la libération en 1990 de Nelson Mandela, fer de lance de la lutte contre le racisme. On écoute un bout de Grazing in the Grass, un des tubes de Hugues Masekela. Hommage à un baobab qui est tombé en Afrique du Sud. On reste en Afrique du Sud. Jacob Zuma peut-être vers la porte de sortie. Des négociations sont engagées entre le très controversé président sud-africain et son parti, le Congrès national africain, l'ANC, pressé de mettre un terme avant l'heure à son règne émaillé de scandales à un peu plus d'un an d'élections cruciales. L'Internet toujours coupé en République démocratique du Congo après les marches de dimanche. Courriels, réseaux sociaux et SMS étaient indisponibles dans la capitale Kinshasa ce matin. Les services Internet étaient également coupés dans les grandes villes comme Lubumbashi, Kananga et Kisangani. Les autorités congolaises ont instruit les opérateurs de couper l'accès à Internet dans la nuit de samedi à dimanche, à la veille de marche contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. Le ministre des Postes et Télécommunications, Emery Okundji, a indiqué lundi soir à l'AFP que l'Internet serait rétabli dans les prochaines heures. Au Congo, au Brazzaville, les négociateurs de la paix dans le pool ont appelé le gouvernement à lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi, chef de la rébellion Ninja, qui sévit dans cette région depuis avril 2016. Ces négociateurs ont par ailleurs demandé à Ntoumi de participer pleinement au retour de la paix dans cette région. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Ngouala Ngoussou.
Cette première phase des négociations directes entre le gouvernement et les éléments du pasteur Ntoumi a consisté à baliser le chemin pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé en décembre dernier. Mais déjà, les 34 négociateurs ont souligné la nécessité de lever les poursuites contre le pasteur Ntoumi. Un extrait du communiqué publié à l'issue de ses travaux.
Il a été également retenu que l'implication du révérend pasteur Ntoumi est essentielle à la réussite de cette opération. À cette fin, la commission a proposé qu'il recouvre sa liberté de mouvement.
Dans le camp du pasteur Ntoumi, on note une réelle satisfaction de ce premier point marqué. Jean-Gustave Ntondo, représentant personnel du pasteur Ntoumi, a ces discussions.
Nous sommes satisfaits de la confiance qui va régner entre donc les deux parties. Nous avons demandé que tous les droits et toute la liberté du révérend pasteur Ntoumi lui soit restituée, on va dire. Donc, de ce point de vue-là, les choses sont claires.
L'Observatoire congolais des droits de l'homme attire l'attention de l'opinion nationale pour que les crimes commis pendant cette crise du pool ne soient pas impunis. Trésor Ndila Kende est son directeur exécutif.
Cet accord ne peut pas être durable s'il consacre l'impunité. Déjà, l'accord lui-même, dans son contenu, il a un contenu très pauvre, un contenu qui ferme les yeux sur toutes les exactions qui sont commises dans le département du Pool. Il n'y a pas que nous qui sont exprimés sur les violations des droits de l'homme dans le Pool. Vous vous souvenez qu'il y a un rapport conjoint entre les Nations Unies et le gouvernement qui pointe également des exactions dans le Pool.
Il faut des moyens financiers pour débuter la mise en œuvre de cet accord. Pour le colonel Pierre Mbongo, le chemin qui reste à parcourir est presque déjà connu.
Il reste maintenant à définir toutes les conditionnalités de sa mise en œuvre effective, notamment les conditions du ramassage des armes de guerre, du retour dans leur environnement familial de tous les ex-combattants qui étaient égarés ci et là. Naturellement, il s'agit aussi pour nous de redimensionner le dispositif sécuritaire dans le pool.
Dans le pool, on enregistre déjà la démobilisation de plusieurs ninjas actuellement cantonnés dans un centre de transit à Kinkala, Nguela Ngusu, Brazzaville, VOA Afrique.
Au Tchad, la police a dit avoir arrêté plus d'une centaine de personnes pour troubles à l'ordre public et destruction de biens suite à une grève massive des transporteurs et à une manifestation de lycéens lundi dans la capitale N'Djamena. Morgan Guiriek.
Les transporteurs tchadiens ont décidé hier après-midi de lever leur mot d'ordre de grève. Nous allons reprendre les négociations avec le gouvernement jusqu'au 10 février au plus tard. Si rien ne bouge, la grève reprendra, a déclaré Abakar Daoud Adoum, secrétaire général du syndicat des transporteurs. Il a aussi annoncé la libération de 15 transporteurs qui avaient été interpellés hier. Les chauffeurs de taxi, de bus et les agences de voyage ont entamé ce débrayage hier pour protester contre l'augmentation du prix du carburant à la pompe. Des lycéens ont suivi ce mouvement avant d'être dispersés par la police qui a annoncé l'arrestation de 143 personnes dont 64 élèves. Selon le porte-parole de la police, 10 véhicules ont été endommagés, dont 4 véhicules de la police, en marge de ces violentes manifestations. Des organisations de la société civile ont appelé une marche le jeudi 25 janvier pour protester contre les mesures d'austérité et la hausse du prix du carburant.
Deux villes du bassin minier en Tunisie ont connu des tensions pour la troisième nuit consécutive suite à l'annonce des résultats d'un concours de recrutement de la compagnie des phosphates de Gafsa, la CPG, principal employeur dans la région. À Mdilia, dans le centre du pays, des jeunes ont bloqué une route et mis le feu à des pneus dans la nuit de lundi à mardi. Ils ont aussi installé des tentes dans divers endroits de la ville en prévision de sit-in sous l'œil de la police qui n'est pas intervenue selon l'AFP. Ces incidents interviennent alors que le calme est globalement revenu en Tunisie après une semaine de contestation marquée par des confrontations quotidiennes entre policiers et jeunes protestataires dans plusieurs villes marginalisées et quartiers populaires de Tunis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le vice-président américain Mike Pence a annoncé l'ouverture avant fin 2019 de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Monsieur Pence s'est exprimé devant la Knesset, le Parlement israélien, malgré la colère des Palestiniens suite à la reconnaissance américaine de Jérusalem comme capitale d'Israël. Écoutez le point de vue sur la question de Marie-Cécile Navès, chercheuse auprès de l'IRIS et auteur de Trump, la revanche de l'homme blanc.
Cette décision, elle est moins faite pour des raisons géopolitiques que pour des raisons de politique intérieure. C'est une décision qui obéit à une stratégie électorale de satisfaire les électeurs évangélistes qui ont voté pour lui à plus de 80% en novembre 2016, auquel Mike Pence appartient, puisqu'il est un chrétien évangéliste. Et ce sont des gens qui ont une vision très millénariste de la politique étrangère, qui s'appuie sur les mythes fondateurs des États-Unis, comme quoi les États-Unis sont la deuxième terre promise après Israël. Avec Pence comme avec Trump, dans le discours incantatoire, dans la surenchère verbale, qui n'engage à rien, mais qui remet en cause les équilibres régionaux et qui participe, je crois, d'une stratégie du chaos à l'international pour apparaître comme un pays combatif qui ne se laisse pas dominer par les réalités locales, mais qui impose sa manière de voir les choses, tout en n'ayant à long terme aucune stratégie géopolitique sur la résolution du conflit israélo-palestinien.
Marie-Cécile Navès, chercheuse auprès de l'IRIS à Paris. Donald Trump a signé hier le texte autorisant le financement de l'État fédéral américain jusqu'au 8 février. Le président américain mettait ainsi formellement fin à la paralysie partielle, le shutdown de près de 3 jours des services gouvernementaux. Peu avant, le Congrès avait approuvé ce financement à la faveur d'un accord entre démocrates et républicains où les premiers ont reçu l'assurance des seconds d'un prochain débat sur l'avenir des jeunes migrants clandestins. Et puis, offensive turque en Syrie, des combats meurtriers ont opposé lundi les forces turques aux combattants kurdes dans le nord de la Syrie au troisième jour d'une offensive que le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est dit déterminé à poursuivre, baptisé Rameau d'Olivier. L'offensive lancée samedi par l'armée turque et menée avec des rebelles syriens pro-Ankara vise à déloger la milice kurde syrienne des unités de protection du peuple, YPJ, considérée par Ankara comme terroriste
de la région Afrin frontalière de la Turquie. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes. Ce sera en compagnie d'Henri Francisque. Bon après-midi à vous sur le continent et à bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.